Bonjour à tous.
Bonjour Mathieu.
Oh, ça c'est agréable. Alors ce matin et dimanche prochain, on va faire une petite pause dans nos prédications sur l'épître aux Hébreux. Je perds des pages de ma Bible. De Corinthiens 8, c'est pas grave, c'est pas. Faut pas l'enregistrer ça. Voilà, donc petite pause du coup ce dimanche et dimanche prochain dans notre étude de l'Épître aux Hébreux. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est peut-être parfois pas le sujet qu'on a le plus envie de discuter en prédication. Alors je profite de cette pause pour me le permettre. Mais avant d'arriver à notre texte, j'aimerais vous poser une petite question. Savez-vous ce qui s'est passé? Ça va arriver, ça va arriver. Le 11 août 1999. Alors là, il va falloir faire appel à votre mémoire, évidemment. Pour les plus vieux. Alors, on a quoi?
C'est l'éclipse.
C'est l'éclipse. Oh, purée, je pensais pas que quelqu'un allait trouver si vite. Effectivement, le 11 août 1999, pour les plus âgés d'entre nous, vous vous souvenez, il y a eu une éclipse totale de soleil. C'est un événement assez rare, assez extraordinaire, qui se produit tous les... je ne sais pas combien d'années, mais en général, quand on en voit une chez soi, c'est une fois dans sa vie, voire pour les générations suivantes. Et effectivement, donc, il y a eu cette éclipse totale de soleil. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un événement quand même, hein, ce truc-là. Et moi, je me souviens, j'étais pas très vieux, du coup, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans et c'était l'école du village qui avait ouvert et tout le monde pouvait venir dans l'école du village. Et vous vous souvenez, il y avait un truc particulier qu'il ne fallait pas oublier. C'était les lunettes, voilà. Et pourquoi est-ce qu'il fallait mettre des lunettes spéciales? Alors j'ai entendu plein de trucs, mais rien du tout du coup. Parce qu'en fait, c'est piège une éclipse, parce qu'on a l'impression que ça éblouit pas, alors qu'en fait les rayons du soleil sont toujours là. Et quand on regarde, quand le soleil brille dans le ciel, qu'on le regarde, on est ébloui, et puis très vite on tourne le regard. Et donc finalement c'est pas si dangereux que ça, parce qu'on peut pas rester longtemps les yeux ouverts devant le soleil. Mais lors d'une éclipse, eh bien, en fait, la luminosité diminue, mais pourtant les rayons sont toujours là. Et donc, sans s'en rendre compte, on peut regarder pendant longtemps et on peut se brûler les yeux, la rétine ou quelque chose comme ça. Et donc, il fallait absolument avoir ces lunettes particulières qui filtraient du coup les rayons qui pouvaient poser problème. Ce n'est pas parce que y a quelque chose qui passe devant le soleil que l'éclat du soleil disparaît. Alors j'aimerais qu'on retienne cette image. Pourquoi? Parce que ce qu'on va voir ce matin, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que quelque chose éclipse la gloire de Dieu que la gloire de Dieu n'existe plus. Il peut y avoir des choses dans notre vie ou autour de nous qui éclipsent temporairement la gloire de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est plus là. Et ce quelque chose... c'est le péché. C'est le mal que nous commettons ou que des personnes autour de nous commettent, ou le péché tout simplement qui est présent et qui nous influence chaque jour. Eh bien, ce péché n'enlèvera jamais la gloire de Dieu. Alors, j'ai donné comme titre à cette prédication « Quand la gloire de Dieu contraste avec la déchéance humaine ». Et on va lire ensemble le premier chapitre, en tout cas une partie du premier chapitre de l'Épître aux Romains, Romains chapitre 1, versets 18 à 32. Vous pouvez le prendre si vous l'avez dans vos Bibles, sinon je vais le lire. Mais avant de prendre ce texte, pour se rappeler un petit peu de quoi on parle. Paul écrit à une église qui se trouve à Rome, et ce n'est pas une église qu'il a implantée lui-même, c'est une église dans laquelle il n'est même jamais allé. Il aimerait pouvoir aller dans cette église à Rome, qui a probablement été créée après la Pentecôte, quand il y a eu une persécution à Jérusalem et que les chrétiens qui étaient là ont fui dans tout l'Empire, eh bien probablement il y en a qui sont allés à Rome et puis les chrétiens se sont retrouvés entre eux et puis ils ont loué Dieu ensemble, ils ont prié, ils se sont enseignés mutuellement et c'est comme ça que l'Église est née. Et les spécialistes parlent d'une très grande Église, probablement plusieurs milliers de membres qui étaient dans cette Église réunis dans plein de groupes de maisons dans la ville. Et donc Paul aimerait aller à Rome avec un objectif particulier. Il aimerait créer à Rome une base missionnaire pour pouvoir implanter d'autres églises dans l'ouest de l'Empire romain. Et c'est comme ça qu'il a fonctionné, que les apôtres ont fonctionné à Jérusalem. À partir de l'église de Jérusalem, ils ont pu créer des églises partout dans la Palestine. Antioche leur a permis de créer des églises dans le monde païen, Éphèse en Asie, Corinthe en Grèce. Et donc, il se dit, ben, Rome, ce sera probablement la prochaine base missionnaire pour toucher l'Espagne et peut-être même la Gaule. En tout cas, l'Espagne, il le cite à la fin de l'Épître. La Gaule, il ne le cite pas, mais on peut imaginer qu'il rêvait de ça, hein. Et puis, malheureusement, il va mourir à Rome. Il ne va jamais lui-même réussir à aller plus loin que Rome. Mais l'Évangile va continuer par la suite. Et donc, quand il écrit aux Romains, il veut s'assurer d'une chose. C'est est-ce qu'on est d'accord sur l'essentiel de la doctrine chrétienne? Est-ce que l'Évangile est clair pour vous, l'Église à Rome? Parce que finalement, il n'y a jamais eu d'apôtre qui est venu chez vous. Est-ce que c'est clair ou bien est-ce qu'il y a des choses un peu bancales? Auquel cas, ça va être difficile d'être une base d'envoi, une base missionnaire pour le reste de l'Empire. Alors, il va leur écrire l'Épître aux Romains, qui est un traité théologique extraordinaire. Et la première chose de laquelle, enfin, la première chose qu'il va écrire, la première chose sur laquelle il va insister, c'est la réalité du péché. Et pendant 3 chapitres, il va parler du péché qui est présent dans le cœur humain, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre passif, quelle que soit la société dans laquelle on est, le péché est présent. Que vous soyez juif ou non juif, parce qu'à l'époque c'était les deux ethnies, enfin il y avait les juifs et les païens dans l'Église, que vous soyez des chrétiens d'origine juive ou des chrétiens d'origine païenne, c'est le même problème de base. Nous sommes tous marqués par le péché. Et c'est le propos de Paul, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si je devais résumer la prédication ce matin, je dirais: ne pas glorifier Dieu est inexcusable. L'embourbement dans notre péché est alors inévitable. Ne pas glorifier Dieu est inexcusable. L'embourbement dans notre péché est alors inévitable. Et lisons ensemble Romains chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre, le verset 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé des relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec les femmes, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Et ce sera jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors, quand on lit ce texte, on se demande, mais Mathias, qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Pourquoi t'as choisi ce texte-là? On n'est pas dans quelque chose de très encourageant, n'est-ce pas? On va y revenir évidemment plus tard à cette question-là. Ce que je vous propose, c'est de diviser le texte en deux parties. Et on va voir premièrement la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Et comment est-ce que Paul ici nous parle de la gloire de Dieu? De Dieu. Et la première chose qu'il nous dit, c'est que la gloire de Dieu, enfin pour parler de la gloire de Dieu, pardon, il nous parle de la perfection, de la puissance et de la divinité de Dieu. C'est surprenant de regarder les premiers mots de ce passage. Paul dit « La colère de Dieu se révèle du ciel ». Pourquoi est-ce que Paul commence son épître en parlant de la colère de Dieu? La colère de Dieu, c'est un thème biblique que beaucoup mettent de côté et ne savent pas trop quoi faire avec. Du coup, certains vont carrément dire bah non, en fait, Dieu ne peut pas se mettre en colère. Et probablement que ce n'est pas comme ça qu'on commencerait, nous, si on devait écrire à une église pour savoir s'ils croient vraiment en Jésus. Est-ce qu'on commencerait avec ses premiers mots, la colère de Dieu? Est-ce qu'on commencerait notre épître comme ça? Mais en fait, on ne peut pas comprendre la gloire de Dieu si on ne peut pas comprendre, pardon, la colère de Dieu si on ne comprend pas d'abord la gloire de Dieu. Et pour ça, du coup, Paul va commencer en parlant des perfections invisibles de Dieu. Regardez le verset 20, il dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. » Paul était juif, rabbin. Et peut-être qu'il avait en tête le psaume 19 qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Personne sur terre ne peut ignorer la gloire de la création. La beauté, la complexité, l'infiniment grand, l'infiniment petit, cette réalité-là, personne ne peut passer à côté. Et comme quand on regarde une œuvre d'art, on ne pourrait pas passer à côté du génie de cette œuvre d'art, n'est-ce pas? Eh bien, de la même manière, Paul nous dit, mais quand on regarde la création, on ne devrait pas passer à côté du génie du Créateur. Regardez un peu ces œuvres d'art. Peut-être certaines, vous les connaissez. Qui oserait dire qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de créateur derrière ces œuvres d'art? Qui oserait dire que tout ça, c'est le fruit du hasard? On jette de la peinture sur une toile et ça nous donne ça. Eh bien, Paul reprend cet argument et il dit « Regardez la création. Qui oserait dire qu'il n'y a personne derrière ?» Alors vous voyez, même celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, même celles et ceux qui n'ont pas d'accès à la Bible ou au témoignage chrétien, sont inexcusables s'ils ne rendent pas gloire au Créateur. Les perfections invisibles de Dieu. Paul continue en parlant de sa puissance éternelle. Et cette création merveilleuse nous amène tout naturellement vers une autre caractéristique de Dieu, du coup, sa puissance éternelle. Et donc, regardez Jérémie chapitre 10, versets 11 à 13. Voilà ce que Jérémie écrit. « Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront, et la terre de dessous de la terre et de dessous les cieux. Il a fait la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Lorsqu'il donne de la voix, les eaux s'amassent dans le ciel, il fait monter les nuages du bout de la terre, il produit les éclairs pour la pluie, il fait sortir le vent de ses réserves. » On pourrait continuer et lire, mais on ne va pas tout lire. Job chapitre 38 au chapitre 41. À la fin du livre de Job, Job explique l'étendue de sa puissance. Dieu explique l'étendue de sa puissance à Job. Et il le met devant une vérité fondamentale. Il lui dit, Job, qui es-tu, toi, un être humain, pour me remettre en question, moi qui suis ton créateur parfait? Qui es-tu? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissances? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança et sortit du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre? Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu considéré l'immensité de la terre? Déclare-le si tu sais toutes ces choses. Qui oserait remettre en question la puissance éternelle de Dieu? Qui oserait remettre en question le Créateur? Cela serait inexcusable. Alors bien sûr, ça paraît presque une évidence de le dire ainsi, mais seul Dieu peut accomplir de telles merveilles. Est-ce que nous sommes le fruit du hasard? Est-ce que tout ce qu'on voit autour de nous est le fruit du hasard? Alors je me souviens que quand j'étais petit, je lisais une bande dessinée, peut-être certains le connaissent, et j'en ai retrouvé à la bibliothèque pour les enfants, j'aime bien. Est-ce que vous connaissez cette BD? C'est Jojo et Gros Louis, qui sont deux copains qui vont à l'école ensemble, qui font plein de bêtises ensemble. Et voilà que dans une de ces BD, on a Gros Louis, donc c'est le personnage sur la gauche. Ils ont à peu près 8 ans. Et puis, un jour, Gros Louis, il a une révélation de Dieu, et puis il se met à croire en Dieu. Et son copain, Jojo, à côté, il dit « Mais c'est pas possible, arrête un petit peu, c'est quoi cette histoire ?» Et bah, toute l'histoire est basée sur ce dialogue entre ces deux copains qui l'un rencontre Dieu, a une révélation de Dieu, et l'autre lui dit « Mais c'est n'importe quoi !» Et Jojo lui dit « Mais on est le fruit du hasard, c'est ce que la maîtresse nous dit, c'est ce que tout le monde nous dit. » Et Gros Louis lui répond « Alors, le jour où il lancera sa boîte de Lego en l'air et qu'il retombera une maison, alors il sera d'accord pour croire au hasard. » Et puis, pendant tout le reste de la BD, on voit Jojo qui jette les boîtes de Lego en l'air. Et puis, ça change à chaque fois que ça tombe, évidemment. Évidemment, ça ne fait pas une maison. Parce que le hasard est toujours déstructuré. La création nous montre l'existence d'un créateur. Et Dieu, dans sa perfection et dans sa toute-puissance, est révélé par la création. Et toute personne qui ne se rend pas compte de ce Dieu-là est inexcusable devant Dieu. Il est pécheur. C'est-à-dire qu'en fait, il veut prendre la place de Dieu. C'est ce que Paul explique. Ils veulent prendre la place du Créateur alors qu'ils ne sont que la créature. Voilà le sens profond du mot péché. Du péché, c'est voler la gloire de Dieu. Se prendre pour Dieu. Penser qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et que nous savons tout mieux que lui. Deuxième point, toujours ce problème d'accent, je viens de me rendre compte, désolé. Falloir qu'on réfléchisse à ça parce que la conséquence de la gloire de Dieu, ça devrait être la piété, la glorification de Dieu et l'action de grâce. Regardez au verset 21, Paul dit, ils sont donc inexcusables parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. La réaction normale, en fait, que Dieu attend de nous, de sa merveilleuse création, c'est clair, c'est le remercier, c'est le glorifier et c'est rester attaché à lui. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 156, 150, verset 6. Dieu est digne de recevoir tous nos remerciements. Dieu est digne de recevoir toute la gloire qu'on peut donner. Et attention, on n'est pas face à un Dieu qui quémanderait quelque chose, une sorte de reconnaissance de la part de ses créatures. Peut-être parfois on peut imaginer Dieu comme ça, comme s'il en avait besoin, comme s'il nous suppliait de l'adorer. Mais ce n'est pas ça du tout. Dieu est Dieu. Et nul ne peut se permettre de bafouer la gloire de Dieu sans que cela ait des conséquences terribles. La gloire de Dieu est là, elle est évidente quand on prend le temps d'y réfléchir. Alors à lui la gloire, la puissance, la louange au siècle des siècles. La création nous révèle donc la gloire de Dieu et nous devrions finalement tous nous prosterner devant Dieu dans un mélange de sainte crainte, de reconnaissance, d'amour, de respect. On devrait toujours reconnaître sa supériorité, son autorité. Proclamer notre dépendance, notre petitesse, notre bassesse, notre faiblesse devant sa magnificence. Dieu n'est pas n'importe qui. Il n'est pas uniquement le bon Dieu qui devrait suffire à se suffire de quelques pauvres prières qu'on lui donnerait comme ça de temps en temps, accessible à sa création. Quel privilège! Quel privilège de savoir que ce Dieu tout-puissant, nous pouvons lui confier nos vies. Nous pouvons lui confier nos craintes, nos peurs, nos angoisses, nos choix, nos colères, nos joies, nos questions, nos doutes, nos forces, nos faiblesses. Ce Dieu tout-puissant qui a tout créé et qui s'attend à ce que nous le glorifions, nous pouvons aussi lui confier ce que nous avons sur le cœur. Quel privilège de savoir que nous sommes tous créés à l'image de ce Dieu glorieux. Tous. Que nous soyons heureux ou pas de notre corps, que nous soyons heureux ou pas de notre intelligence, que nous soyons heureux ou pas de notre vie, de ce que nous sommes aujourd'hui, tu es créé à l'image de Dieu, de ce Dieu glorieux. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Nous avons tous une place particulière dans le cœur de Dieu, parce que de toute éternité, il a choisi celles et ceux qui feront partie de son peuple. Ce Dieu glorieux s'attend à ce que nous restions attachés à lui, à ce que nous puissions le glorifier, à ce que nous puissions le remercier pour tout ce qu'il est. Et si nous ne vivons pas ça, nous sommes inexcusables. Et alors, l'embourbement dans notre péché est inévitable. Et Paul continue et il va faire des reproches à toutes celles et ceux qui ne voient pas la gloire de Dieu. Et il y a sept reproches, on va aller assez vite, sept reproches qu'il fait à celles et ceux qui ne voient pas sa gloire. Le premier reproche, c'est que, verset 21, vous vous êtes garés dans de vains raisonnements. Les vains raisonnements, vous savez, on en est nourri dès notre plus jeune âge, toutes ces idées que l'on nous présente comme des vérités absolues qui ne sont pas discutables et qui mettent Dieu de côté. Alors, j'ai l'impression que ça a changé un petit peu aujourd'hui à l'école, mais on a appris qu'on descend du singe, qu'on est le fruit du hasard, que seuls les plus forts survivent et que si jamais existait un Dieu, il se moquerait bien de la situation des hommes. Nous ne sommes qu'un amas de cellules, que des bouts de viande. Et regardez, Nietzsche a écrit, Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Cet homme, on l'étudie, hein, à l'école, il a fait des choses intéressantes hein, par ailleurs. Ou Richard Dawkins, si bon soit-il, en tant que grand scientifique, a osé écrire un livre qui s'intitule Pour en finir avec Dieu. Quel orgueil, quelle suffisance, quelle arrogance de penser qu'on peut en finir avec Dieu et que c'est nous qui avons tué Dieu. Mais voyez ce genre de vain raisonnement dans lequel on peut entrer si on ne rend pas gloire à Dieu. Le deuxième reproche, c'est au verset 21 encore, ce cœur sans intelligence qui nous plonge dans les ténèbres. Vous savez, c'est cette folie de penser qu'on est des personnes éclairées sans Dieu. Et la Bible est claire, tous les hommes sont plongés dans les ténèbres, au service du prince de la puissance de l'air, au service de Satan, jusqu'à ce que dans sa grâce et selon sa souveraine volonté, Dieu nous attire à lui. Et même si les hommes, les femmes ont une forme d'intelligence sans Dieu, et heureusement, hein, parfois une intelligence magnifique, merveilleuse, on pourrait citer Nietzsche, Dawkins ou d'autres qui ont par ailleurs, sont des personnes extraordinaires, qui ont fait avancer la science, qui ont fait avancer plein de choses. Mais sans Dieu, il n'y a pas cette intelligence renouvelée dont parle Paul un peu plus loin, chapitre 12. Cette intelligence de voir comme Dieu voit. Cette intelligence d'avoir une vision du monde selon la vision de Dieu. Cette intelligence qui peut nous permettre de connaître Dieu et de vivre une sainte crainte de Dieu. Cette intelligence qui nous permet de comprendre son amour pour nous. Cette intelligence qui nous permet de comprendre même tous les mystères de l'Église dont Paul parle en Éphésiens. Calvin utilise une image et il dit que la nature est un immense théâtre, un glorieux théâtre de révélation divine. Par contre, nous traversons ce théâtre comme si nous avions les yeux bandés. Nous nous bandons les yeux, puis nous avançons à tâtons en râlant contre les ténèbres. Voilà à quoi nous ressemblons si nous refusons délibérément de tourner le regard vers l'évidence même. La folie humaine nous amène à préférer les ténèbres à la lumière. Troisième reproche, ils se vantent d'être sages, mais ils sont fous, au verset 22. Encore une fois, cet orgueil de penser que nous avons la vraie sagesse en dehors de Dieu. Quelqu'un a dit « Nous sommes tous des incapables que Dieu utilise glorieusement. » Et donc la vraie sagesse consiste non pas à penser qu'on peut s'en sortir sans Dieu, mais à reconnaître la gloire de Dieu en toute chose. Salomon, peut-être un des hommes les plus sages de toute l'histoire de l'humanité, a écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Quatrième reproche, verset 23, ils ont remplacé la gloire de Dieu par des images et on a là toute la problématique de l'idolâtrie. Si je ne rends pas à Dieu la gloire, je vais la donner à quelqu'un d'autre. Parce que Dieu nous a créés pour que nous donnions la gloire à quelqu'un, à lui. Mais le péché nous détourne de lui. Et nous allons forcément rechercher des choses, des personnes, des animaux, en fonction des cultures, cela va changer. Mais nous allons tous nous tourner vers l'idolâtrie et se créer des faux dieux si nous ne rendons pas gloire à Dieu. Cinquième reproche, c'est verset 25, ils ont remplacé la vérité de Dieu par des mensonges. Ça revient un petit peu au premier reproche qu'on a dû, hein, qu'on a dit, ils sont égarés dans de vains raisonnements. Le mensonge nous aveugle. Et vous savez, un jour quelqu'un m'a dit, le jeu, ou en tout cas l'activité favorite de Satan, c'est de mélanger la vérité et le mensonge. Satan fera tout pour que le mensonge devienne vérité et que la vérité devienne mensonge. Et la parole de Dieu nous aide à trier et à remettre dans le bon tiroir. La parole de Dieu est la vérité. Et en lisant la parole, en nous confrontant à la parole, quand on voit qui est Dieu, alors on remet les dossiers un petit peu au bon endroit. Puis on se rend compte qu'avant, j'étais convaincu que ça, c'était vrai. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce que la Bible dit que c'est faux. Et l'inversement aussi. Donc si on s'éloigne de Dieu, si on ne rend pas gloire à Dieu, on remplace la vérité par des mensonges. Le sixième reproche, au verset 25, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Encore une fois, le problème de l'idolâtrie. Et le septième reproche, verset 28, ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Et ça, c'est peut-être encore pire que ce qu'on peut imaginer. Parce que c'est une chose d'être dans les ténèbres, sans le savoir, mais c'en est une autre de savoir que nous sommes dans les ténèbres, de voir la lumière qui brille, mais de vouloir rester dans les ténèbres. Et cette réalité-là, c'est peut-être la pire de toutes. Si nous voyons la gloire de Dieu, si nous comprenons la gloire de Dieu, si nous comprenons le chemin qui mène à la gloire de Dieu, mais que nous ne l'empruntons pas, mais que nous ne rendons pas gloire à Dieu, et que nous restons dans les ténèbres, c'est terrible. J'aime bien cette image que Brad Dixon utilise dans son commentaire. Il dit, voilà, un beau matin, une jeune femme ouvre la porte de chez elle, et puis elle trouve une rose sur son paillasson. Alors elle la prend, elle la met dans un vase, et puis elle passe la journée à l'admirer. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette rose. Et puis le lendemain matin, elle ouvre sa porte et il y a une deuxième rose qui est posée. Alors elle la prend, elle la met dans son vase avec la première, et puis elle regarde ces roses, elle les admire. Et puis le troisième jour, quatrième, cinquième, sixième jour, tous les matins, une rose. Et là, il y a plein de couleurs différentes, des formes différentes, plein de roses. Elle se retrouve avec un bouquet de roses extraordinaire qu'elle regarde et qu'elle admire. Et elle est tellement émerveillée qu'elle va commencer à les collectionner, à les peindre, à les sécher, à les photographier. Elle adore ces fleurs. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'inconscience chez cette jeune femme qui se concentre tellement sur l'objet qu'elle en oublie qu'il y a peut-être quelqu'un derrière, qu'il y a quelqu'un derrière. Est-ce qu'elle ne commet pas là une offense envers celui qui l'aime? Elle a confondu moyen et finalité. Les roses sont le message dont elles sont porteuses. Et derrière ce message, il y a quelqu'un. Alors ces versets sont un avertissement pour nous, parce que si nous n'avons pas reconnu et proclamé la gloire de Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Et alors les conséquences pour nous sont terribles. Nous sommes dans les ténèbres. Et nous risquons, le jour de notre mort, d'y rester pour l'éternité. Mais, tant que nous ne sommes pas morts, il n'est pas trop tard. Et c'est là le message d'espoir que je veux vous donner ce matin, mais on va attendre encore un petit peu pour y arriver. On va attendre la conclusion. Et si nous sommes chrétiens, ces quelques versets devraient aussi devraient aussi être un avertissement pour nous. Parce que nous voulons rendre gloire à Dieu en toutes choses, n'est-ce pas? Mais ces versets nous avertissent que nous pouvons aussi nous laisser piéger par les reproches qui sont donnés ici. Nous pouvons aussi nous détourner du Créateur. Nous pouvons aussi, parfois, ne pas voir la gloire de Dieu. Il peut m'arriver de m'égarer dans des vains raisonnements, que mon intelligence soit marquée par le péché, ou de penser que j'ai la connaissance et la sagesse sans Dieu. Je peux aussi chercher ma gloire et non celle de Dieu. Je peux entretenir des idoles cachées dans ma vie. Il serait dommage de penser que ce texte-là, ce n'est que pour des personnes qui n'ont pas encore connu Dieu. Ces pièges-là existent encore dans notre vie. Alors j'irai plus vite pour la deuxième partie. Mais on voit finalement la conséquence de ne pas rendre gloire à Dieu, c'est finalement la déchéance de l'homme. On a parlé de la colère de Dieu tout à l'heure. Cette sainte colère de Dieu, et on n'est pas là en train de parler de la même colère que ce qu'on peut avoir, vous et moi, quand on se met en colère injustement contre quelque chose, qu'on est emporté, immaîtrisé, voilà. C'est pas de ça dont on parle, évidemment. C'est bien là l'expression de la libre volonté de Dieu qui punit le péché. Et Dieu n'esquive pas la responsabilité de l'exécution de son jugement. On ne parle pas, encore une fois, d'une émotion ou d'être irrité. Mais on parle ici, dans la colère de Dieu, de l'opposition, de la ferme opposition de la sainteté de Dieu au mal. Parce que Dieu est saint, il ne peut accepter le mal. Et si on ne comprend pas suffisamment la colère de Dieu, alors on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu juge le pécheur. Dieu juge le pécheur et il dit voilà, la colère de Dieu se révèle et amènera chacun qui reste dans cet état de rébellion contre Dieu pour l'éternité loin de lui. Mais sans une juste compréhension de la colère de Dieu et de notre gravité du péché, on ne peut pas non plus comprendre la grandeur de la grâce de Dieu. Et la Bible nous parle de cette grâce. Et Paul va en parler juste après. Toute la Bible nous parle de cette grâce qui nous sauve de la sainte, parfaite et juste colère de Dieu. Et Dieu nous appelle à nous repentir, à revenir à lui, à recevoir son pardon et sa restauration. Il a préparé tout ça dans le système sacrificiel de l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, la colère de Dieu a été détournée de nous. Il a été détourné de nous pour retomber sur une victime sainte, sans défaut, qui a porté le poids de nos fautes. Jésus-Christ, le juste. Et alors à la croix, quand Jésus-Christ meurt et que toute la colère de Dieu contre le péché se déverse sur lui, alors la justice de Dieu est satisfaite. Il a manifesté sa colère contre le péché, contre les pécheurs, sur Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et un petit peu plus loin, Paul écrira « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir? Donc oui, la colère de Dieu et la condamnation éternelle, c'est la première conséquence du rejet de Dieu et de sa gloire. Mais Dieu nous offre une solution. Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ. C'est le seul chemin qui nous permet de sortir de ces ténèbres pour arriver à Dieu. Dieu les a livrés. Vous voyez, on n'aura pas le temps de tout voir, mais quand les hommes se laissent piéger par le péché, alors on voit que Dieu les livre à leur péché. Dieu les condamne en les livrant à eux-mêmes, à l'impureté, à des passions déshonorantes, à une mentalité réprouvée. Et vous voyez cette réalité, si je ne sors pas des ténèbres, si je ne viens pas voir Jésus-Christ, si je ne m'approche pas de Jésus-Christ, qui est le seul qui puisse me détourner de la colère de Dieu contre mon péché et contre moi-même, alors je resterai dans mon péché, et même pire encore, je serai livré à mon péché par Dieu. Et ça ira toujours plus loin, et ce sera toujours plus désolant. Vous voyez cette liste, au verset 29 à 31, qui nous accable tous. Il n'y en a pas un dans cette salle, et je me mets dedans, qui ne peut pas se retrouver dans cette liste. L'injustice, la méchanceté, la cupidité, la perfidie, l'envie, le meurtre, la discorde, la fraude, le vice, être rapporteur, médisant, impie, emporté, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à ses parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence et sans pitié. Voilà à quoi ça ressemble, quelqu'un qui est encore dans les ténèbres. Et voilà malheureusement peut-être à quoi nous ressemblons quand, malgré le fait que Dieu nous ait sortis des ténèbres, nous ne choisissons pas de glorifier Dieu. Et la conséquence est sans appel, c'est la mort spirituelle, cette séparation d'avec Dieu, mais aussi la mort physique, celle qu'on sera pour l'éternité, qui est la conséquence du péché. Alors, pour conclure, je suis désolé, je suis passé vite sur quelques versets, mais pour conclure, est-ce que ce texte est encourageant pour vous, pour moi? Est-ce que notre texte de ce matin est encourageant? Alors j'aurais envie de dire oui et non. Non, ce texte n'est pas encourageant si nous refusons de donner gloire à Dieu. Alors que rien que la création elle-même nous montre la grandeur et la beauté de Dieu. Et probablement d'ailleurs que si aujourd'hui dans cette salle, quelqu'un refuse de donner gloire à Dieu, il sera considéré comme encore plus fautif par Dieu que les personnes qui ont reçu cette lettre de la part de Paul. Parce qu'aujourd'hui, l'accès à la Bible, l'accès à des églises, l'accès à des chrétiens est tellement plus facile qu'à cette époque-là. Et donc, je suis désolé, les amis, mais ce texte n'est pas encourageant, ce texte n'est pas source d'encouragement pour celui ou pour celle qui refuse de sortir des ténèbres, qui refuse de rendre gloire au Créateur, qui refuse de croire en Jésus-Christ. Au contraire, c'est un texte qui montre le péché et ses conséquences. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Et la condamnation de Dieu n'est pas une fatalité tant que nous vivons encore. Alors oui, ce texte peut être source d'encouragement. Ce texte peut être source d'encouragement, mais uniquement pour celles et ceux qui ont saisi le chemin de la lumière qui est Jésus-Christ. Pour celles et ceux qui ont compris qu'ils méritaient la condamnation de Dieu et qui ont placé leur foi en Jésus, pour que cette condamnation ne repose plus sur eux, mais sur Jésus. Ce texte est extraordinaire, ce texte est tellement encourageant, parce que ça nous rappelle d'où nous étions dans les ténèbres, et ça nous rappelle où Dieu nous a amenés dans sa lumière. Je ne sais pas si vous qui êtes chrétien, si parfois vous regardez un peu derrière vous et vous vous rappelez de là où vous étiez avant de devenir chrétien. Et ce texte de Romains 1, on le vivait, hein? Mais Dieu nous a sauvés. Romains chapitre 3, verset 23, un petit peu plus loin, à la fin de toute cette grande section où Paul parle du péché, il dira, car il n'y a en effet aucune distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Voilà la conclusion que Paul apporte à tout ce discours sur le péché. Oui, nous sommes tous marqués par le péché. Aucun de nous ne peut dire que nous n'avons pas été dans cette situation-là, dans les ténèbres, loin de Dieu. Mais Dieu nous a gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Dieu te propose le secours alors que tu es tellement embourbé dans ton péché que tu ne sais plus comment faire. Dieu te propose le secours. Alors où en es-tu? Est-ce que tu choisis de rendre gloire à Dieu? Ne pas glorifier Dieu est inexcusable. L'embourbement dans notre péché est alors inévitable. Mais Dieu, dans sa grâce, nous montre le chemin qui nous mène au salut, à l'adoration, Jésus-Christ. Et je vais terminer en priant. Notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette vérité extraordinaire que tu ne nous laisses pas dans les ténèbres. Quand on voit le péché et ses conséquences, quand on voit où nous étions tous avant de venir à toi, quand on voit à quel point on t'a bafoué, à quel point on t'a méprisé, à quel point on était loin de toi, rebelle, on a volé ta gloire. On a pensé qu'on pouvait être sage par nous-mêmes. Et on s'est laissé aller à toutes sortes de convoitises, à toutes sortes de péchés. Mais pourtant, Père éternel, tu nous as tellement aimés qu'alors que nous étions encore pécheurs, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour qu'il meure à notre place, pour qu'il paye la condamnation à notre place et pour que toi, Père éternel, tu puisses être satisfait en déversant ta colère sur lui. Ta justice et ta sainteté ont été honorées par la mort de ton Fils à la croix. La rédemption nous a été offerte. Père éternel, je te demande, je te prie maintenant pour que celles et ceux qui n'ont pas fait encore ce choix de venir à toi, qui sont encore dans les ténèbres, puissent te donner leur vie, te demander pardon. Sortir encore trop tard, tant qu'on est encore en vie. Seigneur, prends pitié de ceux qui sont encore dans ces ténèbres. Prends pitié de ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui n'ont pas encore proclamé ta gloire, ceux qui ne sont pas attachés à toi, ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ. Et je te prie que, en tant qu'Église, nous sachions aimer à tel point que nous ne taisions pas ces vérités, que nous puissions accompagner avec amour, grâce, fidélité, celles et ceux qui veulent faire ce pas de venir à toi. Merci pour ta grâce, Père éternel, tellement grande. tellement immense. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen.